Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Mais je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Retrouvez toute l'info chartreusine sur Radio Couleur Chartreuse.
Du lundi au vendredi, en direct.
À 9h.
Dans Chartreuse Info. Chartreusins, chartreusines, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. Alors nous sommes le vendredi 19 mars, je ne me trompe pas, et aujourd'hui j'ai un invité en live, ce qui arrive pas souvent depuis un an, il a insisté pour venir, je l'en remercie, c'est monsieur Philippe Berlioz, bonjour.
Bonjour Catherine.
Et donc avec notre invité, nous allons continuer notre célébration cette semaine de la langue française dans toute sa diversité. Parce que monsieur Philippe Berlioz, eh bien figurez-vous, c'est un écrivain public. Un métier qui est devenu rare et auquel j'avais pensé en plus. Donc on va parler aussi de ce métier, des fois que ça donne des idées à certaines personnes. En tout cas, Philippe Berlioz, c'est forcément un amoureux des mots, je ne me trompe pas?
Oui, bien sûr.
Bon. Donc il est bien à sa place ce matin dans le Chartreuse Info. Et puis nous aurons bien sûr les rubriques habituelles, la rubrique prénom. Alors le prénom du jour c'est Joseph, un magnifique prénom. Et puis la rubrique horoscope bien sûr pour savoir ce que les planètes vous réservent aujourd'hui. Et les infos locales. Mais tout d'abord on va commencer en musique. On va souhaiter un très bon anniversaire à quelqu'un qui s'appelle Pino Daniel. Alors oui c'est un Italien, un chanteur, auteur, compositeur de jazz, rock et blues avec la tradition musicale napolitaine. Rien que ça. Donc lui, il est né le 19 mars 1955, je vous laisse faire le calcul et on l'écoute.
Yes, I know. My way.
Vous écoutez Radio Couleur Chartreuse. On est bien.
Nous sommes le 19 mars et aujourd'hui, eh bien, nous allons fêter les Joseph, un très joli prénom, très ancien. Et qu'est-ce qu'il signifie, ce prénom? Alors, je sais pas si Philippe Berlioz en face de moi le sait. Non, il le sait pas. Eh ben, ça veut dire « Dieu accroîtra ma descendance ». Bon. Alors, on le sait tous, hein, Saint-Joseph, c'était l'époux de la Vierge Marie, quand même, c'est pas rien. Et il a été aussi le père nourricier et éducateur de Jésus. Ne riez pas. Donc, voilà. Donc, alors, pourquoi ça signifie « Dieu accroîtra ma descendance » C'est parce que Jacob et Rachel, les parents de Joseph, l'ont appelé comme ça parce qu'ils espéraient avoir plein d'autres enfants, sauf qu'ils n'en ont pas eu. Mais par contre, eh bien, à leur grand étonnement, quand même, il a été le papa de Jésus, ce qui remplace une nombreuse descendance largement. Donc Joseph, c'est naturellement un prénom très répandu dans les pays de tradition judéo-chrétienne, surtout depuis le XVIIe siècle. Il a été classé 25e dans le top 50 des prénoms les plus attribués en France et porté par plus de 400 000 personnes depuis 1900. Donc cette popularité, par contre, elle baisse, figurez-vous, et là elle a atteint 317 naissances de petits Joseph cette année. Par contre, on remarque une hausse légère mais constante des attributions, donc peut-être qu'on va avoir un pic bientôt. Moi, je trouve ce prénom est quand même pas mal. Au niveau du caractère, il paraît que Joseph est reconnu pour son courage, que c'est un homme volontaire, actif et même combatif, qui fait souvent preuve d'un sens moral inflexible, comme moi. C'est aussi une personne sensible et affectueuse qui prêche l'amour autour de lui. C'est également un compagnon responsable et fidèle pour qui les mots amour et amitié ne sont pas vains. Alors dans les Joseph célèbres, bien sûr, il y en a beaucoup. On peut nommer les empereurs Joseph I et II d'Autriche, le premier archiduc d'Autriche, le second roi du Portugal, mais également Joseph Bonaparte, qui a été nommé quand même roi de Naples et roi d'Espagne par son frère Napoléon, le musicien Joseph Haydn, l'écrivain Joseph de Maistre ou encore Joseph Staline. L'âge moyen des Joseph, c'est 90 ans, ce qui n'empêche pas de leur souhaiter une très très bonne fête. Voilà, on va faire une pause musicale et ensuite on va explorer la langue française avec Philippe Berlioz. Là, on va écouter Alex Métayer, qui est né à Marseille en 1930, comédien et humoriste français. Et c'est donc un petit sketch qui s'appelle une chanson, Les pattes à la boudonnie, c'est une archive. On écoute.
Pascal, Pascal, tu m'entends Pascal? Papa et maman viennent d'arriver au sport d'hiver. Oui, tout va bien, tout va bien. Écoute-moi, Pascal, avant que grand-mère vienne s'occuper de vous, je voudrais que tu fasses à manger pour toi et ta petite sœur. Cripa youpi, papa mal au crâne, hein. Cripa youpi, hein. Écoute, Pascal, voilà ce que tu fais. Tu ouvres le frigo, tu as des restes dans le frigo, et t'as juste à faire réchauffer les restes. Tu veux faire de la cuisine. Et qu'est-ce que tu veux faire comme cuisine? Des pâtes. Écoute, Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes. Des pâtes à la boudonnie. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une recette de ton copain Boudoni. Et qu'est-ce que c'est, sa recette? Des pâtes avec de la viande. Mais où vous avez trouvé de la viande? C'est Boudoni qui l'a ramenée dans son cartable. Alors, il a gardé cette viande toute la journée à l'école dans son cartable. Elle est comment, sa viande? Demande-lui comment elle est, sa viande. Correct. Elle est correcte. D'accord, bon. Mais qu'est-ce que vous mettez avec cette viande? La crème fraîche qui était dans le frigo. Et ça fait 2 mois qu'elle est dans le frigo. Quoi? Elle est déjà dans l'eau avec les pâtes, la viande et le ketchup. Passe-moi Boudoni. Il touille à sa place, passe-moi. Allô, Boudoni, comment tu t'appelles? Emilio. T'es pas un méchant garçon, toi. Bon, alors, parle-moi de tes pâtes. Non, regarde dans la casserole, dis-moi ce que tu vois dans la casserole. Des pâtes roses, c'est normal, c'est ketchup. Avec de la viande noire, oui, je viens. Dans de l'eau qui est jaune, pourquoi elle est jaune, l'eau? T'as mis du safran, d'accord, Tu mets plus rien maintenant. Du caries, pas trop de caries quand même, hein. Allô, qu'est-ce qui est mou là? J'entends c'est mou, qu'est-ce qui est mou? Le chocolat. Et pourquoi vous mettez du chocolat dans les pâtes maintenant? Ah non, c'est le dessert, c'est à part, c'est le dessert, d'accord. Non mais qu'est-ce qui est mou? J'entends c'est mou. La casserole est molle. Mais où vous l'avez trouvée cette casserole? Sous l'évier. Mais sous l'évier, c'est tous les récipients qui sont en plastique. Alors forcément, si vous les mettez sur le feu, elle fond la casserole. Passe-moi Pascal, passe-moi Pascal. Il ramasse le chocolat et le plastique fondu avec les mains, d'accord? Pascal, 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 ne t'affole pas, ne t'affole pas. Tiens le téléphone du bout des doigts. Si tu arrives à décoller le téléphone, va dans l'armoire et prends un drap. Non, ils sont tous au sale, non. Va dans la chambre de papa et de maman, tu tires un drap du lit, tu essuies le téléphone et tu éponges tout ce qui dégouline. Fais-toi aider par Boudoni. Il touille. Qu'est-ce qu'il y a tourillé? Il n'y a rien tourillé maintenant. Elles sont cuites les pâtes. Pascal, Pascal, écoute-moi. Prends la place de Boudoni devant les pâtes. Alors dis-moi où elles en sont les pâtes. Il y a trop de fumée. Écoute-moi, Pascal. Prends une fourchette, plonge-la au hasard dans les pâtes et tire une pâte. Tire. Ça fait un bloc. Écoute-moi, Pascal. Tire, tire. T'as une pâte là, tu l'as la pâte, t'as une pâte là. Bon, alors goûte-la. Non, fais la goûter à Boudoni. Il aime, il aime. Il vomit pas, il est bien. Bon alors Pascal, vous m'écoutez bien, maintenant vous mangez les pâtes, debout, les pieds dans le plastique. Grand-mère arrive, grand-mère arrive.
Radio Couleur Chartreuse, c'est sur le 98.4 et le 106 FM au cœur du massif. RCC.
Nous sommes vendredi et c'est donc le dernier jour où on va célébrer la langue française dans toute sa diversité puisque c'était la semaine de la langue française et de la francophonie, amoureux des mots en France comme à l'étranger. Et en l'honneur de cette semaine, donc on va terminer en beauté avec Philippe Berlioz. Alors Philippe, donc c'est sa première fois à la radio, si j'ai bien compris, soyez oui. Indulgent, mais bon, il est là, il est très courageux, je pense qu'il va s'en sortir, a priori. Alors Philippe, il est écrivain public, est-ce que vous pourriez nous dire comment on en arrive à faire ce métier, quel est le parcours que vous avez suivi?
C'est une idée que j'ai eue il y a déjà quelques années quand j'étais en reconversion professionnelle et ça m'a paru un petit peu tôt et économiquement plutôt hasardeux et j'avais laissé ça de côté. Et puis j'ai décidé de changer encore de métier il y a maintenant un peu plus de 2 ans et voilà, l'idée est revenue à ce moment-là. Et alors pourquoi je l'ai choisi, c'est peut-être plutôt pour ça. Alors c'est difficile hein, toujours de connaître les raisons de ces décisions qui souvent viennent du cœur ou d'on ne sait où en fait. Mais ayant travaillé dans le commercial, la banque, l'immobilier pendant de nombreuses années, je m'étais reconverti dans l'économie sociale et solidaire et j'étais en recherche d'une relation humaine qui soit sans enjeu. Parce que dans le commercial, dans le management, on apprend à écouter les autres, mais c'est pour leur vendre quelque chose ou leur demander de faire quelque chose. Oui. Et cette dimension intéressée, elle est nécessaire parce qu'on en a besoin probablement pour vivre, gagner sa vie et exercer certains métiers. Mais je recherchais je crois trouver dans ce métier-là une qualité d'écoute qui est complètement désintéressée.
Oui, parce que... Allez-y.
Oui. Parce que, une fois qu'on s'est mis d'accord quand même sur un tarif, après on est complètement libre et c'est une aventure qui est tout à fait passionnante. Et chaque relation avec un client est une nouvelle aventure.
Oui, parce que c'est pas tout le monde qui se dit un jour, tiens, et si je faisais écrivain public? Forcément, à la base, vous êtes un amoureux des mots, vous êtes intéressé par la littérature, l'écriture.
Oui, mais vous voyez, c'est pas, quand vous me posez la question, c'est pas la première réponse que je vous fais. Je ne vous parle pas de l'écrit. C'est d'abord une question de contact. Moi, je n'ai pas de formation littéraire, mais j'ai beaucoup écrit dans ma vie professionnelle. J'ai beaucoup lu, alors moins à certains moments, mais c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de temps, je lis beaucoup. Et l'idée de J'ai appelé ma petite entreprise de la sève à la feuille. L'idée, c'est d'aller quand même rechercher les sentiments, les émotions et d'être capable de mettre des mots, des phrases, des textes qui ont une résonance pour la personne qui me raconte son histoire. Puisqu'aujourd'hui, je veux essentiellement travailler sur les récits de vie et sur les biographies.
Alors, ah oui, c'est que quel pourcentage de votre travail, ça ?
Bah aujourd'hui, on va dire que c'est la majorité. Mon activité est encore modeste parce que on va dire que je démarre. Mmh. Et mais c'est ce que je souhaite privilégier, soit avec des personnes, soit avec des institutions, associations ou entreprises.
Oui, parce que écrivain public à la base, c'est un très très vieux métier qui oui. a commencé à une période où c'était pas tout le monde qui savait lire et
Bien
écrire.
Sûr. Oui.
Et là récemment, c'était plus pour aider les gens à faire leurs lettres initiales. Ce genre de choses, vous faites ça aussi ?
Bien sûr, alors ça c'est assez simple. Alors je crois vous l'avoir dit, je fais une permanence surtout pour me présenter sur le marché à Voiron. Je rencontre des personnes et j'ai déjà eu l'occasion effectivement de me rendre au domicile de personnes pour traiter des dossiers administratifs ou autres. J'ai aucune difficulté pour ce genre de prestations.
Mais du coup, vous avez un stand carrément sur le
oui,
sur
mais
le marché.
Oui, mais je ne travaille pas sur le marché. Ce n'est pas
oui,
c'est pas
pour
possible.
Vous faire connaître.
Oui, c'est uniquement pour me faire connaître. On n'a pas
un petit stand. Et il y a quoi sur le stand des flyers?
J'ai mes flyers, j'ai une petite caisse de livres que je donne aux personnes qui sont intéressées par ces livres-là. Et puis, des personnes viennent déjà me raconter leur vie, leurs envies, leurs projets. Alors, ces questions de biographie, de récits de vie. On se réveille pas un matin en se disant tiens je vais faire cela, non. Je pense que ça demande une réflexion, une maturation, et puis il y a un moment effectivement où je crois qu'il y a une nécessité de raconter sa vie, de l'écrire. Alors, des personnes me disent « Oui, mais mes enfants, ça les intéresse pas aujourd'hui. » Alors, j'ai envie de dire, soyons un peu égoïstes. D'abord, si on en ressent le besoin, il faut le faire. Je crois que il n'y a pas d'âge pour ça.
Non.
Et puis, il y a un moment ou un autre, les enfants, ils vont trouver un grand intérêt à ce qui aura été écrit par les parents.
Oui, parce que quand il y a un décès dans une famille, rapidement, les gens se disent « Ah zut, j'ai oublié de lui poser cette question, mais pourquoi il a fait ça à ce moment-là » et on le saura jamais.
Oui. Alors, il y a, je dirais, dans la biographie, l'intérêt de rappeler des événements qui ont un lien avec ce genre de questionnement là que vous venez de dénoncer. Et puis, il y a aussi... je pense que quand on raconte sa vie, ça va au-delà des événements, c'est-à-dire qu'on peut voir un style de vie. Par exemple, j'ai eu la chance de retrouver les lettres que mes parents se sont écrites, c'était à la fin de la guerre, pendant leurs études, quelques années avant leur mariage. Alors c'est vrai que c'est une époque où on écrivait beaucoup,
oui.
Hein, les relations épistolaires étaient très très fréquentes, il n'y avait quasiment pas de téléphone. Et à travers le style qui est utilisé, à travers les mots, puis même en comparant, alors d'une manière un peu intuitive, mais le style de ces lettres avec la littérature de l'époque, j'ai quand même pu comprendre le profil psychologique et social et culturel de mes parents. Et ça m'a expliqué la manière dont j'ai été élevé et dont j'ai pu avoir certaines réactions moi-même. Donc, on laisse quelque chose d'extrêmement riche à nos enfants en racontant notre vie. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a quelque temps, je discutais avec un autre écrivain public qui est aussi sur le pays voironnais et qui me disait que depuis qu'il y a cette crise sanitaire, il a eu une demande beaucoup plus importante que d'habitude de biographie. Est-ce que vous avez constaté ça aussi ?
Non, parce que j'ai pas de recul suffisant pour pouvoir vous dire par rapport à une dizaine d'années.
Mais comment ça marche ? Du coup, vous proposez plusieurs formats, plusieurs tarifs, comment vous déterminez le nombre de pages, ce genre de choses ?
Alors ça, c'est très difficile de répondre sur un plan théorique. Au cours d'un entretien avec une personne, je peux me faire une idée, alors qu'il peut être fausse, mais je peux déjà me faire une idée de, en fonction de ce que la personne me raconte de sa vie, de sa mobilité professionnelle, personnelle, l'ampleur que ça peut prendre. Cet entretien, il permet aussi de préciser un peu le peut-être le besoin, l'envie de cette personne. Quelquefois, c'est pas toute la vie. J'ai travaillé avec une personne, on a fait 2 heures d'entretien, par exemple. Et c'était dans sa vie 4 à 5 années qui avait été très, très particulière, assez intense. Et je pense qu'elle n'avait pas besoin d'autre chose. À partir de ces 2 ans d'entretien, on a fait un petit bouquin qui fait à peu près 25 pages. Et qui, voilà, était dans le style qu'elle souhaitait. Mais ça, on le mesure d'une manière un peu intuitive. Alors, ça peut aller de ce qu'on peut appeler un récit de vie pour quelque chose qui sera assez court. Ça peut être 2 heures d'entretien. Et pour une biographie, ça peut être 10 à 15 heures d'entretien.
Mais donc, en général, ce sont des particuliers, c'est des biographies qui sont destinées à leurs proches. Est-ce que vous faites aussi régulièrement des biographies de personnages un petit peu connus sur le pays voironnais, qui ont envie d'être carrément publiés?
Non, alors je souris parce que je me suis posé la question. c'est très ambitieux, mais Mincieu, le peintre voironnais qui a son petit musée, dispose, enfin, en tout cas, il y a un fonds d'archives au musée qui est impressionnant et qui justifierait qu'il y ait une vraie biographie qui soit faite sur ce peintre, Lucien Mincieu. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est une masse de travail extraordinaire, parce qu'il y a des mètres et des mètres linéaires d'archives qui n'ont pas été exploitées. Après, travailler à la gloire d'un homme ou d'une femme politique célèbre au niveau voiron, je ne veux pas dire que ce soit quelque chose qui me... Non, je préfère l'intimité d'un échange avec une personne, avec une publication qui soit limitée à la famille, à l'environnement proche. Je ne me sens pas une plume pour... Non.
Vous savez qu'il y a certains pays dans le Nord où, par exemple, dans les soins palliatifs, il y a du personnel qui est formé justement pour recueillir les témoignages et ensuite les distribuer aux proches et qui paraît que c'est très thérapeutique. Oui. Ça permet à la personne de partir avec l'esprit tranquille, d'avoir fait un espèce de bilan de sa vie. Oui. Et les proches, ils se retrouvent pas les mains nues une fois que la personne est décédée, mais c'est une super idée, ça.
Alors, ce qu'on appelle les biographies hospitalières.
Oui.
Alors, je n'ai jamais pratiqué, je ne pratique pas, et je pense que, il faut quand même une formation spécifique et déjà une expérience solide de la biographie pour s'attaquer à ce genre de spécialité. De toute façon, la dimension, de la thérapie dans la biographie, elle existe, quel que soit, le moment où on l'a fait.
Oui.
Alors, moi, je ne m'inscris pas, avec un objectif, parce que je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue, je suis un être humain, j'essaie d'être sincère et attentif, mais ça ne sera jamais un argument. Si les choses se passent bien, c'est un résultat, et ça, c'est à la personne qui a raconté sa vie d'en tirer les enseignements et de se sentir mieux après. Mais moi, je n'ai aucune arrière-pensée de soins quand j'écoute une personne.
D'accord. Et si un auditeur nous écoute et se dit « Ah, j'aimerais bien que Philippe Berlioz s'occupe de ma biographie », comment il fait pour vous contacter ?
Eh bien, il me téléphone, j'ai un site internet, et puis on se rencontre, on passe une heure ensemble et on essaye de voir si on peut se comprendre et puis travailler ensemble, tout simplement.
Est-ce qu'on peut donner le téléphone ou est-ce qu'on parle juste du site ?
Oh, vous pouvez donner mon numéro de téléphone, il n'y a aucun souci.
Donc 06 38 02 40 08.
Voilà, c'est bien ça.
Et le site s'appelle ?
Alors, c'est écrivain-public-voironnais.com.
D'accord, au singulier tout ça.
Voilà.
Bon, on va faire une petite pause musicale et ensuite on va parler plus précisément de la langue française parce que c'est quand même ça le sujet. Et cette petite pause, eh bien, c'est avec Catherine Sauvage qui est née le 19 mars 1998 et on va écouter L'Homme.
Thank you. Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûté par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne. C'est l'homme. Le poil sérieux, l'arche de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, le yak grippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazone. C'est l'homme. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vie, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour comprend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle. C'est l'homme. Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone. Le chien comprend comme un ami quand il ne reste plus personne. C'est l'homme. Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge. C'est l'homme. Le va-t'en guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette. C'est l'homme. L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est l'homme.
Vous écoutez Radio Couleur Chartreuse sur le 98.4 ou le 106 FM au cœur du Massif. Retrouvez toutes nos infos sur www.radiocouleurchartreuse.org. Ne changez rien.
On est toujours avec Philippe Berlioz, écrivain public, et donc il a aussi écrit un roman qui s'appelle La Chartreuse d'or, ça tombe bien. Alors, c'est le premier ?
C'est le premier, avec tout, on va dire, toutes les imperfections, peut-être les maladresses qu'il peut y avoir dans un premier livre. Alors, c'est une histoire. Un matin, je me suis réveillé, parce que c'est souvent le matin ou le soir, avant de m'endormir, que les idées peuvent venir. J'avais écrit quelques nouvelles et j'ai eu envie de m'intéresser à ce qui me semblait un peu paradoxal entre le vœu de pauvreté des moines de la Grande Chartreuse et puis les bénéfices qui sont dégagés par la production de la liqueur. Je suis pas le premier à me poser cette question. Je sais que des religieux, enfin des moines du monastère ont pu se poser ces questions-là aussi et sont pas forcément très à l'aise. Alors, on trouve pas la réponse à la fin du livre, hein, parce que ce n'est pas... évidemment, c'est un sujet qui est traité d'une certaine manière, mais il n'y a pas de réponse. Donc après, chacun se fera son opinion. Alors, j'ai construit une histoire de deux personnages principaux autour du vol de la recette de la fabrication de la chartreuse. Et puis, j'ai un garçon qui est un ancien de l'Office national des forêts et puis une journaliste, voilà, qui essaye de contrer un projet d'un marchand de biens qui a des vues immobilières sur le monastère. Voilà un petit peu l'idée générale.
On peut dire que c'est une enquête, en fait.
Oh, disons que l'intrigue est là pour, on va dire, pour tirer l'histoire, parce que j'avais besoin d'un fil conducteur qui soit assez simple. Mais pour moi, le fond du livre, c'est quand même l'histoire de cet homme et l'histoire de cette femme qui est journaliste au Dauphiné Libéré, s'il vous plaît.
Et voilà.
Non, parce qu'il cherche quelqu'un qui puisse l'aider à enquêter. Il est un petit peu mal à l'aise, maladroit en face de ce monastère qu'il vénère sans être lui-même j'irais croyant, mais il travaille dans les bois, il a côtoyé le monastère d'une manière permanente et il est tombé un peu par hasard sur cette histoire. Voilà. Donc c'est surtout l'histoire de ces deux.
Mais vous n'êtes pas le premier à vous poser la question. Je sais qu'il y a un moine, dans des temps très reculés, c'est très vieux, qui était parti avec une partie de la recette et qui a essayé de gruger.
Oui, oui, oui. Alors, après avoir écrit le roman, en tout cas le premier jet, je suis tombé sur un fascicule. J'ai trouvé ça sur Internet où on retrace quelques 3 ou 4 exemples, effectivement, de situations, d'événements au cours desquels on a essayé de voler ou de copier sans succès cette fameuse formule.
Voilà. Oui. Voilà. Et donc, vous racontez dans ce livre votre attachement à la Chartreuse.
Oui.
On parle de la montagne, là. Hein.
Ah, alors.
Pour vous, c'est un ensemble, peut-être.
La Chartreuse d'or, j'ai choisi ce titre parce que, on va dire, le terme n'existe pas. C'est pas la Chartreuse verte, ni la Chartreuse jaune, c'est autre chose. L'or, c'est aussi la richesse, mais la richesse de l'argent, c'est la richesse de la spiritualité. La première Chartreuse que j'ai connue, c'est le massif, bien sûr. Je suis natif de Chambéry, j'ai vécu à Chaparian dans mon enfance, à Pont-de-Beauvoisin, on a déménagé. Enfin, pour moi, c'est mon territoire de cœur. Et puis, le monastère et la vie des moines m'interpellent. Donc je prête des pensées et je donne des paroles, je cite certaines paroles du prieur de la Grande Chartreuse qui est en interaction avec ce méchant qui a de mauvaises intentions. Voilà.
Et j'ai appris qu'il y a un espèce de système de relais où, par exemple, les moines de la Grande Chartreuse prient toutes les nuits, je crois que c'est vers 3h du matin, pour le monde entier. Et il y a un relais comme ça... avec d'autres monastères.
Oui, alors écoutez, peut-être. Je me suis documenté, j'ai lu un peu, enfin suffisamment pour pouvoir monter mon histoire. Je pense que ils sont dans l'adoration, ils sont dans la prière, dans la méditation, et je pense qu'ils le font pour l'humanité. Oui.
Mmh. Oui. Mais vous avez jamais envisagé d'être moine ?
Non. Non, 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 non. Alors, j'ai presque une hésitation dans ma réponse, mais non, je pense être un être social, j'ai besoin de rencontrer, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie professionnelle, ça reste un besoin, mais j'ai aussi besoin de solitude. Il m'arrive la semaine dernière, j'ai eu la chance d'avoir une météo favorable, je suis allé marcher 5 jours dans les Cévennes avec mon sac à dos, ma tente, et j'ai vu pratiquement personne pendant 5 jours. Et ce sont des moments qui sont... Alors après, en extrapolant, je peux imaginer ce qui peut se passer peut-être dans la tête, dans l'esprit d'un moine.
Et pendant ces 5 jours, est-ce que vous écrivez ?
Ah non, absolument pas.
Rien du tout ?
Non, rien du tout. Non, non, alors là, il n'y a pas de... J'ai un téléphone pour des raisons de sécurité, mais il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de mail, rien du tout. C'est une liberté... Oui, c'est une liberté, c'est aucune contradiction. C'est la liberté de penser blanc le matin, noir le soir, et puis de laisser vagabonder ses pensées, tout simplement. Quelquefois avec des émotions qui peuvent être assez fortes dans certains paysages.
Et pourquoi avoir choisi les Cévennes ? C'est à cause du film, là, Antoinette, qui est très bien par ailleurs.
Ah oui, bien sûr. Alors, oui, film intéressant avec des beaux personnages que j'ai vus. Non, c'est une région que j'aime bien, le Mont-Aigoual, le chemin de Stevenson, et puis. Disons qu'on peut, il n'y a pas un dénivelé qui est très très fort, donc on peut marcher relativement longtemps sans s'épuiser et justement laisser vagabonder ses pensées. Mmh. Voilà.
Et sinon, du coup, ce livre, si on veut se le procurer, comment on fait ?
Eh bien, il sera donc imprimé. Alors, il est aujourd'hui en période de souscription, mais donc on a validé le projet et il sera imprimé au début du mois de juin. Donc les personnes peuvent aller sur mon site internet ou directement sur celui donc des éditions TOT, T-H-O-T, à Fontaine, avec qui je travaille depuis maintenant quelques mois. Voilà.
Et c'est un gros livre ?
Oh non, 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 il va faire à peu près 250 pages, donc c'est un livre qui est, enfin on va dire simple à lire, qui... qui pose pas de problème. Alors il y a quelques pages avec des réflexions, des pensées personnelles que j'ai données, notamment que j'ai données au personnage et au prieur de la Grande Chartreuse. Mais c'est un livre qui se déroule. Voilà, il y a une histoire qui roule avec des personnages plutôt attachants. Voilà.
Et quand vous dites que vous êtes tourné vers l'économie sociale et solidaire, c'est dans quel domaine ?
Eh bien, d'abord, j'avais suivi une formation et j'ai eu la chance d'avoir une direction d'une maison familiale rurale, celle de Coublevis en l'occurrence, qui forme les jeunes. Enfin, c'est une école professionnelle, hein, qui forme des jeunes de la quatrième à la terminale au métier du cheval.
Ah, bah ça devait être passionnant.
Voilà, donc ça a été une très belle expérience humaine. Parce que il y avait une belle équipe d'enseignants et puis je me suis, enfin pas dire découvert, mais je me suis trouvé une certaine aisance dans ma relation avec des jeunes et ça a été un moment très très enrichissant. Oui.
Et sinon, on va quand même parler de l'importance de la langue française. Est-ce que vous saviez que c'est la langue étrangère la deuxième la plus apprise dans le monde après l'anglais?
J'avais envie de dire oui, j'aurais peut-être hésité avec l'espagnol, mais d'accord, bah très bien.
Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la langue française? Parce qu'il y en a certains qui disent oui, l'anglicisme, toutes ces histoires d'écriture inclusive, le fait que l'orthographe est en train de disparaître, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi je ne suis pas inquiet parce que Je lis des livres qui paraissent aujourd'hui. Ils sont évidemment écrits bien différemment des romans du 19e siècle. Je relis un peu des classiques parce que je suis une formation actuellement pour des jeunes auteurs. Donc je relis des classiques, je relis du Victor Hugo, Balzac, et puis des auteurs contemporains. C'est toujours aussi beau, c'est complètement différent. Donc la langue, elle doit bien vivre. On peut lire beaucoup de romans aujourd'hui sans anglicisme. Et puis heureusement, on lit beaucoup de romans sans écriture inclusive. Alors autant, j'en dire, les anglicismes, utilisons-les s'il le faut, si c'est nécessaire. Je ne pense pas que ça dénature la langue. J'avoue être assez... l'écriture inclusive, je suis très mal avec ça. Je me sens très très mal. Alors, tant pis, écoutez, je vais vous le dire, je pense pas que le respect de la femme, la considération de l'identité de la femme, ça soit quelque chose, une question de vocabulaire. Alors qu'on utilise l'écriture inclusive comme un outil politique, comme un outil de revendication, comme une manière de se faire reconnaître dans un mouvement féministe peut-être un peu excessif, comme tout ce qui est qui se veut révolutionnaire ou dans l'opposition, pourquoi pas? Et le combat n'est pas fini, mesdames, ça c'est clair, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc je suis tout à fait pour accompagner la cause des femmes. Je pense que dans la Chartreuse d'or, y a un beau rôle de femme. Et dans le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui, c'est uniquement un livre de femmes, en fait. Alors, il y a quelques hommes à la périphérie, mais et pour ça, j'ai pas besoin de l'écriture inclusive. J'ai besoin de comprendre comment une femme a un sentiment, une émotion particulière... quelle est sa sensibilité, pourquoi elle a des réactions qui sont peut-être différentes de celles des hommes. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse.
Oui, parce qu'il y a certains écrivains qui ont le talent de pouvoir justement écrire un livre en faisant croire qu'ils sont de l'autre sexe. Mais il y en a certains chez qui ça se voit. On se dit, c'est pas possible, c'est pas un homme qui a écrit ça, on va vérifier si c'est une femme ou inversement. Et donc, je pense que c'est précieux comme talent. C'est pas beaucoup d'écrivains ont ce talent-là.
Alors, écoutez, c'est une amie qui me l'a dit, donc je ne sais pas. C'est toujours compliqué quand on a un compliment d'une amie. Elle m'a dit, dans une vie antérieure, t'as été une femme. Voilà. Donc, écoutez, je le prends comme un compliment.
Voilà.
Et j'espère que les femmes trouveront leur compte dans ce roman-là, et puis dans le prochain, j'en suis sûr, qui sera
Vous connaissez le titre déjà ?
Oh, alors j'ai un premier titre, mais qui va peut-être changer, qui s'appelle Au cœur des nus, N-U-E-S, donc qui est un. J'entretiens une ambiguïté volontaire entre les nus, enfin le terme qu'on utilisait dans le temps pour parler du ciel, puisqu'une de mes deux héroïnes qui est née au début du siècle, enfin elles naissent toutes les deux en 1900-1902, veut devenir pilote d'avion. C'était une de mes passions, enfin de gérer de jeunesse, cette histoire de l'aviation. Et pourquoi je crois que j'ai perdu le fil de mon idée, je suis désolé.
Oui, mais je vais rebondir parce que ça tombe bien. Cette année, le thème de la semaine de la langue française, c'est l'air. Justement.
Voilà, alors les nus, voilà, c'est ça.
Oui.
Et l'autre, voilà, merci. Et l'autre jeune femme qui est issue d'un milieu bourgeois avec une très très forte contrainte sur le plan éducatif et social, en fait, va arriver à sortir de ce carcan. Par le biais de l'art, elle va rencontrer un peintre qui aurait pu ressembler peut-être un petit peu à Mincieux, à Voiron, et qui va découvrir, en fait, va être choquée par le nu, si vous voulez, en tant que modèle de peintre, parce qu'en fait, elle ne connaît pas son corps. C'est une époque où les femmes se lavaient en conservant une chemise de nuit ou quelque chose comme ça. Dans ces milieux-là, elles n'avaient pas le droit de se regarder. Et elle va être confrontée à cette nudité comme étant un lieu d'attraction. Enfin, je cherche mes mots, pardonnez-moi,
oui.
Mais voilà, comment la peinture s'intéresse à un nu. Donc en même temps, si vous voulez, elle a une sorte de découverte de son propre corps sur un plan esthétique. Elle va le découvrir aussi à travers la pratique de son art. Et puis après, bien entendu, à travers la sexualité.
D'accord. Bon, eh bien, il va falloir qu'on arrête là parce que l'heure tourne, malheureusement. Et on va clôturer sur quelque chose d'assez poétique. Les gens se sont posé la question, quel était le premier mot qui a été employé dans le monde ? Et en fait, tout le monde aurait l'intuition que le premier mot, en fait, ce serait un nom, qu'ils auraient donné un nom au défunt pour ne pas l'oublier. Le premier mot de l'histoire de l'humanité. J'ai trouvé ça assez poétique. Bon, on ne le saura jamais, hein, la vérité, mais c'est une belle option. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Philippe Berlioz.
Mais c'est moi qui vous remercie, Catherine.
On a hâte de lire tous ces livres. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir aller faire un tour sur le marché de Voiron, j'irai voir votre stand.
Merci.
Merci d'être venu.
À
bientôt. Au revoir.
Merci.
On va continuer en musique. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ? Eh bien, Shannon Wright, With Closed Eyes, excusez pour l'anglais. Et c'est une chanteuse, guitariste, pianiste américaine qui a dû traverser l'Atlantique pour trouver un label à Bordeaux et garder son intégrité. On l'écoute.
écouter Radio Couleur Chartreuse en direct sur internet sur le www.radiocouleurchartreuse.org.
RCC. Alors, on va commencer par une info locale assez sympathique. C'est une idée à la base du Centre chorégraphique national de Grenoble qui vous propose de danser 5 minutes par jour devant tout ce qui est lieu culturel. L'idée, en fait, c'est de conserver le lien avec le public, vu que tout ce qui est théâtre et tout, c'est fermé. On est très mal par rapport à ça. C'est un acte de résistance poétique quotidien qui a été initié par Nadia Vadori-Gauthier. En fait, ça a commencé depuis janvier 2015, mais là, il y en a particulièrement besoin. Donc, il vous est proposé de venir bouger et vous offrir un moment de liberté pour vous-même et en lien avec les autres, dans le respect des gestes barrières, bien sûr. 5 minutes par jour devant tout ce qui est établissement culturel. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo très très sympa. Je sais pas si vous connaissez la série En Famille. Et donc, il y a une actrice dedans et tous les jours, elle va danser devant un lieu culturel. Elle se filme, c'est sur YouTube, c'est très sympa. On attend de voir Philippe Berlioz, justement, faire ça dans Voiron avec impatience. On passe à une info quand même très importante. Sachez qu'aujourd'hui, il y a collecte de sang sur Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Joseph-de-Rivière. C'est à la salle d'animation rurale riviéroise de 16h30 à 19h45. Et il faut simplement prendre rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang en tapant mon-rdv-dondesang.fr. efs.santé.fr. Et c'est très important parce que les stocks de sang sont vraiment en baisse. Et puis, si vous voulez faire un petit tour à Saint-Étienne-de-Crossé, il y a une exposition organisée par le comité de jumelage. C'est à voir à partir du 21 mars au 20 juin chez les commerçants, les lundis et mardis de 13h30 à 18h, les mercredis et samedis de 9h à midi et les jeudis et vendredis de 8h30 à midi et 13h30 à 18h à la mairie, à la bibliothèque et à la maison de santé. Donc, ça fait toujours du bien de voir des belles choses et puis ça soutient la culture. On va poursuivre en musique avant de voir ce que les planètes vous réservent pour aujourd'hui. Et donc, on va écouter Manon Werner, Band Out of Control. Alors, qui est-ce Manon Werner? C'est un petit groupe local, un groupe de Chambéry qui est mené par une superbe voix, celle de Manon. On l'écoute.
Fragile mind. And now Radio Couleur Chartreuse, c'est aussi sur internet. www.radio-couleur-chartreuse.org.
Alors, que vous réservent les planètes aujourd'hui ? On commence bien sûr par le bélier. Alors, bélier, arrêtez de courir tout le temps. C'est un temps de pause là maintenant, le calme avant la tempête. C'est un temps nécessaire pour vous retrouver et vous ressourcer. Si vous êtes taureau, sachez que Neptune, Vénus et le Soleil vous poussent à vous dévoiler, à ouvrir en grand vos sensations, vos sentiments, à laisser aller vos émotions, à vous adonner à l'écoute de l'autre, ce qui n'est pas facile en général pour le taureau. Gémeaux, eh bien Mars vous pousse toujours au meilleur de vous-même en ce moment, mais attention aux malentendus, attention à votre manière de formuler les choses, ne vous éparpillez pas. Si vous êtes cancer, eh bien sachez que quatre planètes en signe d'eau vous entraînent en ce moment dans un bain de saveurs, d'odeurs, de couleurs, de sensations physiques et émotionnelles. Soyez doux et indulgent envers vous-même et les autres. Lion, cette journée est pour vous l'occasion de vous poser, de vous reposer. Le vent commence à souffler sur vos envies d'ailleurs au niveau pro et vous suggère d'envisager une nouvelle manière de travailler. Vierge, et ben vous êtes un petit peu déstabilisé à cause des planètes qui sont dans votre signe opposé et qui perturbent votre équilibre et votre ancrage. Sachez que vous avez le droit à l'erreur et à la vulnérabilité. Balance, journée à deux vitesses. Alors, d'un côté, il y a les énergies du poisson qui sont douces, calmes et qui vous invitent à écouter vos émotions. Et de l'autre, eh bien, l'envie de démontrer que vous êtes capable de tout avec l'envie de bouger, d'agir. Scorpion, eh bien vous, vos émotions sont exacerbées. Ne sombrez pas dans la mélancolie ou le pessimisme. Les astres vous invitent juste à vous envoyer de l'amour et à en envoyer aux autres. Sagittaire, eh bien Mars vous envoie de la chaleur, de l'énergie, du désir. Les planètes en poisson, elles vous proposent d'aller dans vos ressentis. Donc il va falloir regarder quelle relation vous entretenez avec vous-même et comment vous vous aimez. Capricorne, vous aimez l'ancrage, le concret, vous sentez bien en ce moment que tout est flou, rien n'est acté, tout bouge, tout change. Donc ça vous plaît pas trop. Verseau, les énergies vous parlent d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, de compassion, d'anticipation. C'est maintenant ou jamais pour entreprendre ce qui vous anime vraiment. Si vous êtes poisson, eh bien vous avez toujours quatre planètes, toujours dans votre signe. Une semaine d'amour, de douceur, de sentiments, d'émotions exacerbées, de ressentis. Je vois Philippe qui soupire de contentement. Plein de bonnes choses à prévoir. Et puis, eh bien, c'est déjà l'heure de se quitter. Donc, eh bien, nous vous disons au revoir en espérant que vous allez toutes et tous passer un très très bon week-end et en espérant aussi qu'on se retrouve lundi. Ciao, bye bye. On va se quitter en musique. Alors, je me perds dans mes feuilles. Où est la musique ? Eh ben oui, c'est une version très originale de la chanson de Claude François, Alexandrie, Alexandra par les Verts.
Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra,
Alexandrie,
où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda.
Barracuda,
je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Alexandrie, où l'amour danse au fond des rats. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je n'ai
s'il en fera. Alexandra,
Alexandrie,
Alexandrie, Alexandrie, où tout commence, c'est tout fini. J'ai plus l'appétit qu'un barracuda.
Barracuda,
je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Alexandrie,
Alexandrie,
Alexandra,
Alexandra,
Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas.
De ma jeunesse.